Bonjour à tout le monde. C'est Pentecôte aujourd'hui. On ne va pas l'oublier quand même. On a le privilège d'être dans un pays où c'est un jour que l'on commémore encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand nos autorités vont nous maintenir des commémorations de ce type-là. Mais voilà, on est aussi une église charismatique, donc c'est bon de s'en souvenir et de mettre aussi nos pensées dans cet axe-là, parce que c'est important. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la prière et aussi de quelque chose qui s'appelle un parcours de prière. Alors, ne cherchez pas dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça, mais que je vous explique un petit peu. Un parcours de prière, comme son nom l'indique, c'est une espèce de randonnée de prière avec des étapes différentes. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai souvent lu, j'ai lu énormément de livres sur la prière, et puis on se rend compte qu'on a beau en lire des milliers, de toute façon, il n'y a que la pratique qui vous fera vivre vraiment la prière. Et puis vous aurez beau choisir de vivre la prière comme un tel, comme vous l'avez lu dans un livre, ou comme un autre l'a proposé. Et puis en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne marche pas. Force a été de constater que je devais trouver mon propre chemin, mon propre parcours de vie de prière. Et en fait, j'ai découvert cette notion-là quand j'étais toute jeune chrétienne, au travers d'un livre qui parlait à la fois de la vision du temple à Jérusalem et de la prière. Et ça a été un support pour moi pour découvrir ces choses. On voyait dans le temple, il y avait d'abord l'autel des sacrifices, après la cuve d'airain avec l'eau pour se purifier. Il y avait le lieu saint avec les parfums, les pains, les bougies, les chandeliers, et seulement après le lieu très saint, ce lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et ça a été pour moi une découverte, un support de soutien et d'aide dans ma vie de prière, comme quelque chose qui pouvait se cadrer. C'est vrai que notre culture évangélique pentecôtiste, on est très libre. On n'a pas des prières écrites à l'avance, les choses ne sont pas toujours cadrées, donc il faut qu'on trouve soi-même son propre cheminement. Pour d'autres personnes, je sais que par exemple, elles ont une liste de prières, d'intercessions quotidiennes, 365 jours par année. Personnellement, j'ai essayé, mais je n'ai jamais pu, je tenais 3 jours, puis après, il y avait plein de choses qui venaient parasiter tout ça. Donc, je me suis dit, des parcours de prière, il en existe beaucoup, à la limite, vous pouvez tous en trouver. Il y a celui que j'ai cité, l'image du temple. Pour rester dans l'Ancien Testament, moi j'ai eu pendant longtemps le psaume 23, ça a été un support pour m'aider dans mes pensées, pour cadrer mes pensées. On peut prendre le Notre Père qu'on a chanté tout à l'heure. On peut prendre le premier chapitre d'Éphésiens 1, par exemple, qui parle de Christ, mais qui refait le tracé de notre rédemption. On peut prendre le psaume 16 que Michel a cité aujourd'hui. Vous voyez, c'est libre, c'est chacun comme il le sent, mais c'est une façon d'être aidé, d'avoir un cadre, un peu un support. Et puis, ce n'est pas quelque chose de fixe. Personnellement, j'ai ce besoin d'un cadre pendant un temps. Puis après, j'en ai plus besoin. Ou alors, il y en a un autre qui vient là se proposer. Donc, c'est assez souple. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre ce temps de parcours de prière au travers d'un texte qui est dans Luc 24, 13 à 25. Alors, il est très connu, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. Et elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qu'il leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Moi, j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'elle est vraiment concrète, et on peut beaucoup s'identifier à ces gens-là. Alors, que je retrouve... Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut... trouver un parcours de prière dans ce texte? Vous devez vous poser peut-être la question. Je pense que déjà on peut s'identifier à ces personnages parce qu'il est question de deux personnes qui vont de Jérusalem jusqu'à un lieu qui s'appelle Emmaüs, à peu près à 11 km de Jérusalem, et qui s'en retournent. Et il est parlé d'un certain Clopas et d'un autre compagnon. On ne sait pas qui est cette personne. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Ça ne nous est pas dit. On sait qu'il y avait une Marie, femme de Cléopas, de Clopas, qui était au pied de Jésus au moment de la crucifixion. Donc, est-ce le couple qui rentre chez lui après ces événements? On peut très bien, nous, s'imaginer être compagnons de Clopas sur cette route-là. Une chose est sûre, c'est qu'ils avaient vécu un événement traumatique, choquant. Ils avaient vécu des événements qui les ont mis KO sur la route. Ils avaient été déçus de tout ce qui s'était passé, choqués. Ils avaient quand même vécu une crucifixion, ce qui est quand même un traumatisme terrible. Et puis une déception aussi par rapport à leur chef religieux, une déception profonde par rapport à une population véhémente qui souhaitait crucifier leur ami, et aussi la déception d'un espoir déçu. Et je crois que bien souvent aussi, dans notre existence, on peut vivre des événements à des degrés différents qui nous laissent avec cette tristesse et cette déception. Ça peut être des événements ponctuels, mais ça peut être aussi des moments de notre existence plus ou moins longs. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voire plus de temps parfois, où on se dit, voilà, je mets mes espoirs en Jésus et la réponse qui est là n'est pas celle que j'attendais. Et voilà que dans ce temps-là de réflexion entre ces deux-là, il y a un inconnu qui arrive. Nous, on sait que c'est Jésus parce que c'est marqué, mais eux ne le savaient pas. Voilà, il y a un troisième qui vient dans leur route et qui leur dit, mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler ? Mais comment ? T'es pas au courant ? Il n'y avait pas la radio à l'époque, mais enfin, tout le monde était au courant du séisme qui s'était passé. Non seulement un séisme religieux, psychologique, mais souvenez-vous, au moment de la crucifixion, il y a eu des ténèbres pendant plusieurs heures, il y a eu des tremblements de terre. Donc, personne, en fait, ne pouvait ne pas savoir. Et là, Jésus fait quelque chose d'étrange. Il leur dit, mais quoi ? En connaissant Jésus, on se dit, mais il savait lui, bien évidemment, puisqu'il était au centre de cette histoire. Mais qu'est-ce que fait Jésus ? En fait, Jésus les pousse à parler. Jésus les pousse à dire leur vécu, à dire leurs ressentis, leurs déceptions. Si on reprend le texte, il parle de ce Jésus qui est un grand prophète en actes et en paroles. Ils ont donc une connaissance de Dieu qui leur est propre, qui est la leur à ce temps X. Et Jésus les fait parler, alors que Jésus sait très bien ce qui s'est passé. Avant même qu'on ouvre la bouche, Jésus, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Mais voilà, un aspect de la prière qui est important, c'est d'apprendre à dire à Jésus tout ce que l'on vit. Et là, je pense que bien souvent, on est engoncé dans nos traditions religieuses, dans nos formulations préétablies, dans une vision peut-être un peu étriquée de ce qu'il est possible de faire et de vivre. Et j'en veux pour preuve ce témoignage qui m'a beaucoup marqué. J'en parle souvent, rendez-vous avec la Bible. C'est un témoignage d'une femme cambodgienne au temps du génocide perpétré par Pol Pot au Cambodge. Cette femme était une universitaire, son mari, son père, tous étaient universitaires. Et à cette époque, Pol Pot massacrait les universitaires et principalement les hommes. Ils sont donc venus un jour dans sa famille et ils ont tué tous les hommes de la famille devant ses yeux. Elle avait un fils, elle était enceinte d'un deuxième enfant. Et ils ont oublié qu'elle était elle aussi universitaire et elle n'est pas morte. Donc sa mère, elle et leur petit sont partis dans un camp de travail pendant le temps où Pol Pot a pu vivre. Et donc cette femme a vécu dans ce camp de travail, et j'imagine que ça a été terrible. Et elle était bouddhiste, et le soir, après son temps de travail, elle allait s'isoler parce qu'elle avait besoin de vider son cœur, et elle s'est dit, mais quel Dieu peut faire des choses aussi horribles ? Elle s'est dit, ça ne peut pas être Bouddha parce qu'il ne peut pas faire des choses aussi terrifiantes. Et elle a réfléchi longuement et elle a décrété qu'il n'y en avait qu'un seul qui pouvait faire ça. C'était le Dieu des Occidentaux. Et elle a décrété que tous les soirs, elle irait lui dire toute sa colère, toute sa haine. Elle irait déverser sur lui tout ce qu'il y avait dans son cœur, l'injustice. Et elle a fait ça soir après soir, pendant des semaines, pendant des mois. Mais c'était sans compter sur ce Dieu des Occidentaux et ce qu'il allait faire. Et étonnamment, elle témoigne qu'au fil des semaines et du temps, elle attendait ce temps où elle pouvait aller déverser sa colère. Et petit à petit, à la place de la colère, y est venue la paix. Et elle a vécu tout un chemin de transformation sans savoir véritablement qui il était, ce Dieu-là. Et j'ai trouvé ce témoignage tellement fort parce qu'il bouscule nos traditions religieuses. On a le droit de dire à Jésus parfois toute notre colère, tout notre ressenti. Et pourquoi on peut le faire? Parce qu'il est le bouc émissaire. Il est celui qui a pris nos péchés, les nôtres, et le produit des péchés qui sont là ou qu'on subit, et qu'il les échange avec sa paix. Et je crois que quand Jésus, alors juste pour terminer le témoignage de cette femme, voilà, elle a pu être libérée du camp une fois que toute cette terrible histoire a été finie, et un jour qu'elle est venue en Europe, elle est allée dans une église catholique du sud de la France, et là elle a entendu parler de Jésus, qui il était. Et elle a fait le lien et elle a compris que ce Dieu auquel elle avait déposé tant de haine et de colère était Jésus-Christ. Et elle est devenue chrétienne. Et je trouve que c'est un tellement beau témoignage et un encouragement pour pouvoir aller vers Jésus et lui dire vraiment ce que l'on vit. Et je crois que dans ce passage, c'est ce que Jésus fait. Il les incite à parler, à dire, à se dire. Et on sait aujourd'hui combien c'est thérapeutique. Nos psychologues n'ont pas trouvé quelque chose de nouveau. Ils ont juste découvert ce qui était déjà. Alors voilà. Nos deux disciples ont expliqué à cet individu étranger toute cette histoire. Alors, il ne nous est pas raconté ce que Jésus ressentait à ce moment-là, mais on peut soupçonner quelque chose, puisqu'il est dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » J'ai été choquée en lisant cette phrase, parce que moi, si j'entendais tout ça, j'aurais dit aux disciples plein de phrases de compassion, de gentillesse, d'espérance. Eh bien, notre Jésus, il ne dit pas ça. Notre Jésus... Il renvoie ces personnes dans leur but, en quelque sorte, et il pose un diagnostic sévère. En fait, dans le texte grec, il n'est pas dit « homme ». Il est dit « personne », alors que je reprenne... « Alors, il est dit « Ô insensé et ralenti de cœur à croire ». Hein? Donc, voilà, c'est les traducteurs qui ont mis « au homme » et qui peut peut-être nous faire penser que c'était que deux hommes, mais il se peut que ce soit un couple, comme on a pu voir. On n'a pas de réponse, et puis c'est pas ça qui a de l'importance. Mais en tout cas, Jésus, là, devait être bouillonnant, alors je pense pas de colère, mais certainement aussi attristé de voir et d'entendre et la vision que ces deux disciples ont de toute la situation. Et là, c'est le temps où Jésus parle. Les disciples ont eu la parole. Maintenant, c'est Jésus qui parle et qui explique. Et pour les disciples, c'est un temps d'écoute. Ah, ça, c'est autre chose. Apprendre à écouter Dieu. C'est quelque chose qu'on a de la peine à faire, qu'on a de la peine à vivre, parce qu'on est prompt à parler et lent à écouter. Et pourtant, c'est ce qui va aussi transformer notre vie de prière. Qu'est-ce que fait Jésus là? En fait, il reprend la première façon que l'on peut avoir d'écouter Dieu, c'est-à-dire il reprend l'Écriture. Il reprend ce qui le concerne dans l'Écriture. Et il pose là un fondement. Écouter Dieu, on peut l'entendre de plusieurs sortes, de plusieurs façons, mais la prioritaire, c'est toujours l'Écriture. Et c'est pourquoi la connaissance de l'Écriture est si importante. Parce qu'elle nous permet de découvrir qui est Dieu, quelles sont ses pensées, quels sont ses projets, comment il fonctionne et comment nous, dans notre raison ou avec nos émotions, on peut choisir de s'aligner sur qui il est et ce qu'il est. Je dis ça parce que l'autre façon que l'on a, c'est d'entendre l'Esprit Saint nous parler, parler à nos cœurs, mais on sait que c'est une expérience subjective. Entendre l'Esprit Saint, c'est découvrir la voix de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, on peut mettre peut-être Jean 10, versets 4 et 5. Je ne l'avais pas mis sur la liste. C'est bon. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Hein, je crois que apprendre à écouter Dieu, c'est apprendre à reconnaître la voix du berger entre toutes. Mais pour reconnaître sa voix, il faut apprendre à le connaître lui. Alors, écouter le Saint-Esprit, recevoir des pensées, que ce soit à titre individuel ou collectivement, comme on le vit ici, nécessite de bien connaître d'abord l'Écriture. Ça doit rester ce fondement sur lequel on se trouve. Et ça doit, on doit aussi grandir dans le fait de trouver un équilibre, parce que le canal que je suis n'est pas un canal parfait. Et parfois, je peux recevoir des pensées qui sont soit les miennes, soit celles de l'ennemi. Et comment faire la part des choses? Mais je pense que Dieu nous appelle à vivre avec notre raison. Et quand l'apôtre Paul dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire que ce que je reçois dans l'inspiration, j'ai la responsabilité avec ma raison, qui est alignée sur l'écriture, d'évaluer et d'éprouver ce que j'entends, que ce soit à titre personnel ou que ce soit collectivement ici. Et en fait, ça apporte de la sécurité. C'est quelque chose qui nous aide à éprouver les paroles subjectives que je peux recevoir. Alors, certaines personnes ont très peur de recevoir des pensées du Saint-Esprit directement et s'appuient profondément sur leur raison. Et on en a tellement peur qu'elles se mettent à distance. D'autres, ça nous arrive aussi d'être beaucoup trop, ou voire peut-être excessif, dans le fait d'entendre le Saint-Esprit pouvoir parler. Donc, comment trouver un équilibre entre les deux choses ? Je pense que voilà, Dieu nous a donné une capacité à comprendre l'Écriture, à chercher Dieu, et avec notre raison, d'éprouver ce que l'on entend. Et cela amène un chemin de tranquillité et de sécurité. Et c'est ce que nous vivons, par exemple ici dans l'Église, quand quelqu'un apporte une inspiration. Voilà, des personnes qui sont là, ont le Saint-Esprit, et parce qu'elles ont ou elles apprennent à connaître Dieu dans l'Écriture, elles peuvent dire oui, ça correspond bien. Si parfois, des fois, ça nous est arrivé d'entendre des choses extravagantes, pas il y a très longtemps en arrière, j'avoue, on a pu dire « Ah, là, il y a quelque chose qui n'est pas très juste. » Et c'est une nécessité de vivre les choses comme ça pour que l'Église vive en paix et en sécurité. On est Pentecôte aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit sont là et ils nécessitent de pouvoir les vivre dans un cadre de paix, de tranquillité, d'ordre et de sécurité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé formidable que Jésus prenne avec les disciples tout ce qui le concerne dans la parole, parce que c'est sur cette écriture-là qu'est posé le fondement de notre marche et de notre écoute. Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et on sait que c'est ce que Jésus a fait. Voilà, dans notre temps de prière, il y a un temps pour parler à Dieu, où on peut apprendre à lui dire tout ce qu'il y a sur notre cœur. Il y a un temps pour l'écouter, ce qu'il a à nous dire de lui. Et on se rend compte que dans le cœur des disciples, il y a quelque chose qui palpite, qui bouillonne. Et pendant ce temps d'écoute, non seulement ils étaient encore en lien avec leur vécu à Jérusalem, mais ils étaient déjà un peu plus loin, non seulement géographiquement, mais dans leur pensée. Et en fait, apprendre à écouter ce que Dieu veut nous dire dans nos circonstances, c'est un peu prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. On dit toujours, j'ai le nez sur l'arbre qui me cache la forêt. Et quand on est dans des situations difficiles, on a le nez dessus et on ne voit plus rien d'autre. Et en fait, écouter Dieu nous aide à nous éloigner, à prendre du recul par rapport aux circonstances, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan de ma raison. Et à prendre un temps pour se dire, bon, il faut que j'arrive à un peu me dissocier des circonstances et de ce que j'en ressens et de ce que j'en vis. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait là avec ses disciples, en leur expliquant qui il était, ce qu'il était dans l'Écriture. Les disciples ont commencé à se dire « Oups, oups, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris, quelque chose qui commence à prendre du sens. » Et la pensée de Dieu, c'est aussi de donner du sens à ce que je vis. Et là, ils continuent leur chemin, leur route, et sans se rendre compte, ils arrivent à domicile. Et cet étranger veut continuer sa route, mais eux, ils n'ont pas envie de se séparer. Hein? On vit souvent ça ici, quand on fait des agapes le dimanche. On n'a pas envie de se séparer, on est bien ensemble. Et puis le soir approche. Donc il l'invite et cet homme-là accepte. Je crois que dans notre existence, on a des moments où, dans nos temps de prière, on peut faire un pas supplémentaire, celui d'inviter Jésus dans un temps de rencontre. Ce n'est pas la même chose que parler. Ce n'est pas la même chose qu'écouter. Il y a un pas de plus pour vivre un temps de rencontre. Quand on entend Jésus dans Apocalypse 3:20 qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je mange avec lui et lui avec moi. » On peut entrer dans un temps de communion intime avec Jésus. Quelque part, entrer dans ce lieu très saint où on vit quelque chose à la fois de simple et de tellement fort. C'est ce que ses disciples ont vécu. Ils ont pris un repas ensemble, ce qui est quelque chose de simple. Mais au moment où Jésus a rompu le pain, ils ont eu la révélation de qui était l'homme qui était en face d'eux. Ils ont compris que ça n'était pas qu'un prophète grand en parole et en acte, mais qu'il était le Messie. Et dans nos temps de prière, on n'a pas toujours le temps d'aller dans ces temps de rencontre avec Jésus, mais c'est des temps où il se passe profondément quelque chose. On ne peut pas toujours l'expliquer, mais il y a une connaissance du Christ qui s'installe en nous, un aspect hein, ou un autre, peu importe, c'est le Seigneur qui choisit comment le révéler dans ces moments-là. Et c'est des moments très forts, et c'est des moments à la fois très simples, c'est pas du tout des moments, quand on lit ce texte-là, c'est quelque chose de tellement simple, mais c'est des moments tellement vrais où le Saint-Esprit se révèle Jésus à nos cœurs. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on peut choisir de vivre. Quand Jésus dit au sermon sur la montagne, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et il te le rendra. » Je crois qu'on a besoin dans notre vie de prière de découvrir des temps d'intimité avec Dieu, profonde, parler, écouter et se rencontrer. Et là, il se passe quelque chose dans la connaissance que je peux avoir de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui choisit en fonction de mes besoins, de là où Dieu veut me connaître, me révéler qui il est, en fonction de mes besoins. Et c'est quelque chose de tellement important. Et on se rend compte, là, Jésus s'en va tout de suite. Ils le reconnaissent, ils ne restent pas. Et on se souvient de la transfiguration, quand Jésus est allé sur la montagne avec ses trois compères. Oui, on va rester là, on va mettre des tentes et on va rester là. Mais ça n'est pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que dans des temps d'intimité, il se révèle à nous sous un aspect ou un autre. Mais la pensée de Dieu, ça n'est pas de rester figé sur une expérience. Parce que là, Jésus s'en va de leurs yeux, non seulement parce qu'il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore monté auprès du Père, mais profondément pour une autre raison, c'est que Dieu veut qu'on marche par la foi et non pas par des expériences, par des sentiments. C'est pour ça que ces temps d'intimité avec Dieu, il faut à la fois y aspirer, mais c'est Dieu qui vient vers moi, qui entre avec moi. Moi, je sais qu'il y a des fois, j'ai aspiré vivre des temps comme ça, et il ne se passait rien. Seigneur, t'es quoi? Tu me boudes, tu me fuis, tu me rejettes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas eu comme pensée? Parce que je voulais vivre cette expérience, mais Dieu, il n'a pas permis. Parce que c'est quelque chose qui ne se calcule pas, c'est quelque chose qui ne se pressent pas, qu'on ne peut pas contrôler. C'est juste un temps d'intimité unique à un moment donné qui peut se répéter, mais c'est Dieu qui, quelque part, est au contrôle. Et là, nos deux compères se retrouvent, bras ballants, qu'est-ce qu'on fait ? Et un peu comme au moment de la transfiguration, ils se lèvent et ils retournent sur les lieux de leurs difficultés. Parce que ces temps d'intimité avec Dieu doivent produire ou devraient produire quelque chose. Quand on a la révélation d'un aspect ou un autre de Jésus-Christ, on ne peut pas rester sans que ça produise quelque chose, un effet. Je me lève et je retourne vers mes difficultés. Le mot Emmaüs semblerait vouloir dire une seconde chance. Donc je retourne dans les difficultés qui sont les miennes aujourd'hui ou hier ou demain. Mais cette fois, elles n'ont peut-être pas changé, mais c'est moi qui ai changé. C'est mon cœur qui a changé, parce que j'ai pu me décharger en lui disant tout ce qu'il y avait sur mon cœur. Parce que j'ai pu l'écouter dans la parole, comprendre ce qu'il était. Parce que j'ai pu le rencontrer. Alors, ma vision de celui qui tient ma vie dans sa main, si je suis à lui, alors il tient ma vie dans sa main et les circonstances que je vis, elles sont voulues, conduites, permises par lui. Et elles ont un sens et il veut y donner un sens. Et c'est important. Je retourne vers mes difficultés, mais en étant moi transformée et en ayant au fond de mon cœur la connaissance d'un projet de Dieu pour ma vie. C'est important. Voilà, de vivre nos difficultés, de vivre des temps, mais aussi nos temps de joie, mais en découvrant quel est le sens que Dieu veut y donner. Parce que chaque événement de ma vie, si je lui appartiens, a un sens. Et Dieu poursuit un objectif avec ce que je suis en train de vivre. Et là, quel était l'objectif ? Pour ses disciples, je l'ai appelé le risque de la foi. Il fallait oser retourner à Jérusalem parce que les circonstances n'étaient pas faciles. Les chrétiens étaient persécutés, pourchassés. Il y a eu beaucoup de crucifixions à ce temps-là. Ils ont dû vivre cachés avec les autres disciples. On sait que après l'ascension, ils ont dû rester dans une chambre haute et attendre la venue du Saint-Esprit. Retourner à Jérusalem, c'était à la fois le risque de la foi et le risque de l'Église. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Parce que On est Pentecôte aujourd'hui. Et nos deux disciples, ils sont retournés à Jérusalem pour vivre cette Pentecôte. Le risque de la foi pour eux-mêmes, mais aussi le risque de l'Église, c'est-à-dire d'entrer dans une nouvelle dimension, être baptisé du Saint-Esprit. Ce que Jésus avait vécu, ce baptême du Saint-Esprit, qu'il avait lui-même été obligé de vivre 3 ans auparavant, il voulait l'offrir maintenant qu'il était assis à la droite de Dieu. Il voulait l'offrir à ses disciples. Et c'est là que l'Église s'est concrétisée. Quelque part, elle a commencé avec le baptême du Saint-Esprit de Jésus-Christ, puisqu'il était, il a tout reçu à ce moment-là. Et à la Pentecôte, ce baptême, il l'a offert aux croyants qui étaient là pour devenir son corps, son temple, ce nouveau temple, cette nouvelle alliance, cette nouvelle marche. Et ses disciples ont dû se dire, waouh, le sens de mes difficultés, tout d'un coup, ont pris une dimension, se sont inscrits dans une logique de Dieu absolument extraordinaire. Pas facile, certes, pas facile. Je me souviens, j'ai vu récemment un film de quelqu'un qui a fait un film sur les Actes des apôtres. Moi, j'ai pris ça en pleine figure parce qu'on lit, on idéalise un peu les miracles et tout ça. Mais leur réalité, mince, c'était pas du tout ça, hein. Ils devaient fuir les policiers, ils étaient arrêtés, il y en a qui ont été lapidés quand même, enfin, ouais, c'était une j'ai vraiment pris conscience d'une réalité de ces débuts de la première Église. On pense à tous les miracles et tout ça, mais c'était pas gratuit, hein. Donc c'est pour ça que je dis le risque de la foi, le risque de l'Église. Parce que je crois qu'on ne peut pas dissocier les temps d'intimité avec Jésus de ces deux risques-là. Et aujourd'hui, on est Pentecôte. Et moi, ça me réjouit parce que je me dis, voilà, parce que peut-être deux disciples ont pris ce risque-là. Peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est là aussi et c'est le fruit. On ne peut pas dissocier ces choses. Hein? Il y a quelque chose que je voudrais aussi dire qui est dans une dimension de choses nouvelles pour Jésus-Christ. Quand il est noté que les yeux des disciples se sont ouverts sur Jésus, ça m'a rappelé deux autres compères qui ont eu les yeux ouverts. C'était Adam et Ève, au moment de leur désobéissance. Leurs yeux se sont ouverts sur leur nudité, sur le péché. Là, on est en face de deux disciples dont les yeux s'ouvrent, non pas sur leur nudité, mais sur leur sauveur, sur celui qui vient concrètement restaurer ce qui a été abîmé au départ. Comme il est dit, un nouvel Adam, une seconde chance, une autre alliance. Et je crois que toutes ces choses-là doivent nous aider dans notre vie de prière à vivre ces dimensions-là pour qu'on puisse trouver du sens aux circonstances de ma vie aujourd'hui, à ce que je vis. Et aussi pour que l'on puisse inscrire à la fois ma vie, ce que je vis, dans un collectif qui est celui de l'Église et du projet de Dieu pour le monde. Parce que l'Église a la responsabilité d'être témoin dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est Pentecôte aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Vous encourager, nous encourager en tout cas, à une vie de prière qui nous permette de vivre cette rencontre avec Jésus qui transforme à la fois mon cœur, mais ma connaissance de Dieu et ma vision des circonstances qui sont les miennes aujourd'hui pour qu'elles aient du sens à la fois individuellement, mais aussi collectivement, parce que on ne peut pas être, quand on est chrétien, être dissocié du collectif. C'est quelque chose d'important. Alors, vivez une belle Pentecôte, que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit le réclament avec force et volonté, qu'on prenne ce risque, le risque de la foi et le risque de l'Église, même si les temps qui sont là sont peut-être pas faciles, quoique pour nous en Europe, c'est encore pas trop difficile, mais je crois en tout cas que le monde a besoin de voir les témoins dignes de nos deux compères. Amen.